de pierres et de notes, votre rendez-vous musical, orchestré par Blandine Piccinini.
Bonjour, bienvenue dans l'émission de Pierres et de notes. Je suis en compagnie d'Yves Gourina, un organiste. Bonjour Yves.
Bonjour Blandine.
Le temps du carême est un temps liturgique qui montre effectivement une dévotion à Dieu dans le christianisme. Qu'est-ce que vous, en tant qu'organiste, quelle sorte de musique vous entendez en temps de carême ?
Alors effectivement, le carême se vit aussi en musique, vous avez tout à fait raison, et en particulier pour nous, les organistes. Le temps de carême, c'est plusieurs mots qui ne sont pas forcément ceux que l'on entend habituellement. Bien sûr, on parle du jeûne, de la pénitence, très bien, très bien. Il y a l'ouverture, l'attente, la contemplation. Alors bien sûr, on ne va pas jouer des airs d'opérette pendant le temps du carême. On va au contraire ouvrir son cœur. Je pense que c'est le plus important d'ouvrir son cœur, peut-être encore plus que pendant le temps ordinaire. Je n'aime pas du tout d'ailleurs ce terme de temps ordinaire, soit dit au passage, parce qu'il n'y a jamais rien d'ordinaire dans la liturgie. Il n'y a que de la joie et de la grandeur. Mais dans le temps du carême, il y a en effet cette ouverture plus grande, cette exigence d'écoute. Oui, il faut que la musique soit à l'écoute. Alors évidemment, cela se décline de plusieurs façons. D'abord, la méditation intérieure. Donc on va jouer peut-être des œuvres plus méditatives, plus intérieures. On va utiliser les fonds de l'orgue. On va utiliser les jeux de flûte, très doux, les voix célestes par exemple. La voix humaine également. On va probablement éviter les mixtures les plus scintillantes qui sont réservées pour le soir de Pâques, naturellement. On attend un petit peu comme quand les cloches reviennent le soir de Pâques, c'est un petit peu la même chose. Donc oui, on va utiliser des jeux doux et on va vivre la musique de l'intérieur.
Et donc du coup, l'orgue et l'organiste donnent des sons qui font référence peut-être à l'abstinence de la joie ?
Oui, alors non. Alors, je ne suis pas tout à fait d'accord avec cette expression, parce que la joie, elle est toujours présente, y compris dans le carême. Simplement, elle s'exprime d'une autre façon, elle est peut-être plus intériorisée. Donc, personnellement, je n'oublierai jamais la joie.
Elle est en vous, mais vous souhaitez nous faire découvrir à ce propos une fugue de Johann Sebastian Bach, BWV 544. Qu'est-ce qu'à l'intérieur de cette fugue, il recèle quelque chose de concret pour le carême ?
Alors, il y a quelque chose tout à fait extraordinaire dans ce grand prélude des fugues en si mineur, puisque c'est un des plus grands que Bach ait écrit. Il semblerait, alors comme tous les préludes des fugues, il avait une vocation liturgique, chacun le sait, le prélude à l'entrée, la fugue à la sortie, il a été composé probablement pour des funérailles, ce prélude des fugues, et il comporte à la tonalité de si mineur, et très particulière, le ré majeur, vous savez, c'est le magnificat, c'est la joie éclatante, c'est quelque chose de fabuleux, le si mineur et le relatif mineur, du ré majeur, c'est avec les deux dièses donc, c'est la joie intérieure, c'est la joie intériorisée, la joie qui chemine, qui avance. Et alors cette fugue, puisque vous me parlez de cette fugue, elle a ça d'extraordinaire qu'elle a un thème, qu'on peut le dire, qui est le cheminement du chemin de Saint-Jacques. C'est-à-dire que c'est un pas lent, un petit peu de passacaille, mais à deux temps. Alors évidemment, ça n'est pas une passacaille. Mais il y a la même idée d'un pas qui avance, et qui avance de manière irrévocable, de manière discrète, mais de manière, comment dirais-je, les voix se joignent les unes aux autres, les unes aux autres. D'ailleurs, dans l'histoire des fugues, cette fugue en si mineur fait entendre le thème un nombre de fois inédit. C'est tout à fait extraordinaire. Et on sent, à chaque fois qu'une voix entre, qu'il y a un nouveau pèlerin qui arrive et que dans le carême, ensemble, nous cheminons vers la joie.
Nous cheminons dans la joie ou vers la joie, oui. Mais il y a quand même 40 jours à suivre cette formule de carême.
Oui, alors entre les 40 guillemets. Jours, il y a toute une symbolique, la symbolique du déluge, hein, puisque finalement c'est vrai, il a plu pendant 40 jours. Mais qu'est-ce qui s'est passé pendant le déluge symboliquement, bien sûr, je ne vous mène pas en bateau là, si j'ose dire. si vous voulez, ce qui s'est passé, c'est un cheminement vers la vie. Car si vous regardez bien après le déluge, qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a eu l'arc-en-ciel, il y a eu le recommencement et la vie. Ensuite, il y a eu les 40 jours dans le désert. Oui, quand il y a eu l'Exode, il y a eu 40 ans et puis 40 jours, c'est des durées symboliques, bien sûr. C'est quelque part l'attente et la préparation pour la joie. Donc la joie est présente dans la préparation. Si j'osais, je dirais que dans Le Petit Prince, c'est quelque chose qui est évoqué. Quand la rose se prépare à l'abri de sa chambre verte, et bien c'est ça le carême.
Et comment vivre sa foi en temps de carême, à part la musique? Quelle façon d'être on
doit avoir? Il faut se préparer à la vie. Je vous dirais que nous sommes un petit peu comme des enfants qui attendent la naissance. Alors, le grand théologien Claude Trémontant avait évoquer cette situation de deux enfants dans le ventre de leur maman qui discutent sur l'existence d'une vie après la naissance. Je trouve que c'est absolument magnifique. Le carême, c'est ça. C'est cette discussion sur ce qu'il advient, sur la vie qui est plus forte que la mort. Alors bien sûr, quand on parle de la vie qui est plus forte que la mort, on ne peut pas ignorer la mort. On ne peut pas ignorer, malheureusement, le contexte du monde aujourd'hui nous le montre clairement, que l'obscurité, je dirais presque le côté obscur de la force, est toujours présent, bien sûr. Mais dans notre cheminement du carême, nous ne pouvons pas oublier que nous avons la foi, l'espérance et la charité. L'espérance est la
plus forte. Quelque chose que l'on vit de profond. La foi, c'est quelque chose qui revendique une profondeur humaine.
Oui, mais elle est inséparable de la charité et de l'espérance. Et l'espérance est plus forte. Elle s'éteindra jamais. Alors dans le carême, bien sûr, c'est une petite bougie. Ça n'est pas encore le soleil resplendissant du matin de Pâques. Mais nous l'avons déjà potentiellement.
Est-ce que le carême, c'est aussi la tristesse?
Je ne le pense pas, si je puis me permettre. On peut cheminer dans l'intériorité sans être triste. Pourquoi faudrait-il être triste alors que nous savons qu'il est vivant? Je ne suis pas d'accord. Vous me permettrez, Blandine, pour une fois, de ne pas être d'accord.
Dans les chorales de Johann Sebastian Bach, on trouve aussi cette joie à l'intérieur de la force et de la foi en temps de carême, puisqu'il en a composé. Qu'est-ce que vous en
pensez ? Alors, écoutez, je vais rebondir aussi sur le mot tristesse, qui, vous l'avez compris, m'a un petit peu chatouillé quand même. Il y a cette idée que le majeur est joyeux, voire badin, et que le mineur est triste. Pour moi, il n'en est rien. Ce sont deux versants de la même joie. Et dans Bach, on le voit très bien. Car le mineur est plein de l'espérance. Même quand vous écoutez l'introïde de la Passion selon saint Matthieu, qui est une chose, une profondeur extraordinaire, vous avez une pulsation cardiaque qui, si vous voulez, rappelle que la vie est toujours là et sera toujours là. Et réciproquement, le majeur n'est jamais le majeur d'opérette. D'ailleurs, c'est rigolo, il faudrait qu'on s'interroge sur ce point-là. Bach n'a jamais écrit d'opéra. La joie de Bach n'a jamais été frivole. Disons-le, franchement, la joie de Bach, ça n'est pas, viens poupoule. Et donc, oui, la joie de Bach n'est pas grivoise. La joie de Bach, elle est bonne vivante, car Bach aimait bien aller boire son café au café de Zimmermann. C'est la vie dans toute sa plénitude, mais ça n'est pas n'importe quoi. Voilà. Et d'ailleurs, ça nous fait réfléchir à ce qu'est la liberté. On pourrait en parler à propos de l'harmonie, du solfège, etc. La vraie liberté, ça n'est pas de faire n'importe quoi. La liberté réelle, c'est de construire ensemble dans la joie et dans l'ordre.
Donc, à l'intérieur d'un extrait mineur, on a une force...
Une joie extraordinaire.
Extraordinaire.
Absolument, mais c'est une joie intérieure. C'est très troublant. C'est comme, finalement, dans un tableau sombre, vous voyez, un tableau de Goya, par exemple, extrêmement sombre, il y a des traces de lumière qui sont en train de sourdre à travers ce tableau, qui sont en train de poindre, exactement comme l'aurore. Hein, voilà, cette chose extraordinaire qu'on appelle l'aurore. Et donc, cette joie qui est en train de sourdre, c'est ça qu'il y a dans le mineur.
Dans ces temps de carême, on peut jouer des œuvres en mineur. Donc, ce temps de carême est encore plus fort et plus joyeux et plus intense.
Quelque part. Mais vous l'avez dit, ça vous a échappé, mais vous l'avez dit. Et quelque part encore plus joyeux, parce qu'à travers ce mineur... Et alors, ce qui est rigolo, vous savez, c'est qu'on s'interdit bien sûr d'utiliser les cymbales. Bon, parce que les cymbales sont des mixtures extrêmement scintillantes, extrêmement aiguës, qu'on ne peut pas utiliser. Par contre, on peut utiliser la fourniture qui, elle, renforce les pleins jeux et sous-entend presque de manière inconsciente la lumière qui est derrière. Donc l'éclair, si j'osais le dire, par l'intérieur.
Donc, en tant qu'organiste liturgique, vous montrez tout ça à l'intérieur des sons de l'orgue.
Complètement. Mmh. Chaque dimanche de carême, c'est une joie extraordinaire de faire sourdre cette joie. Oui, oui, vous avez raison.
Merci Yves pour cette émission sur les temps de carême en tant qu'organiste liturgique.
Merci Blandine, à bientôt.
À bientôt dans l'émission de Pierre et de Notes.
Merci.
C'était De Pierre et de Notes, une émission présentée par Blandine Piccinini sur Radio Présence Lot.